Les archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour et merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. C'est une préoccupation des écologistes. La communauté humaine dévore la planète Terre et consomme ses ressources sans modération, à tel point que depuis les années 1950, on s'inquiète de la prolifération de notre espèce et de la pression qu'elle exerce sur l'environnement. Au milieu du siècle dernier, cette inquiétude avait un nom, la surpopulation. Au rythme des naissances, la population humaine allait progresser au point de submerger la planète par le nombre. Les anticipations donnaient des résultats les plus fous. Serions-nous un jour 10, 12, 20 milliards d'individus sur la Terre ? La suite des événements allait démentir ces prévisions catastrophistes. Mais tout de même, en 1950, on comptait 2,5 milliards d'humains. En 2026, nous sommes 8,3 milliards. Le mythe d'une progression impossible à maîtriser s'est effondré, mais la réalité d'une mainmise des humains sur les ressources de la planète s'est confirmée. Certes, certains consomment plus que d'autres, et parfois beaucoup plus, mais une chose est sûre, nous puisons dans les réserves et nous ne pourrons pas continuer comme cela très longtemps. Alors écoutons ce reportage de RFI qui date d'une trentaine d'années maintenant, octobre 1998 précisément, et nous verrons dans 20 minutes comment la situation a évolué. A tout à l'heure.
Fréquence Terre.
Ben Kramer. Aujourd'hui dans Fréquence Terre, la surpopulation au-delà des mythes.
Est-ce que nous serons demain 8 milliards, 10 milliards, 12 milliards sur la Terre? Est-ce que la Terre pourra supporter cette population-là? Je pense que la décision est entre nos mains.
De toute façon, on n'en restera pas aux 6 milliards d'aujourd'hui, c'est sûr, mais on ne sera pas les 20, 30 ou 100 milliards qu'on pouvait imaginer si ce rythme d'aujourd'hui se maintenait.
Chaque jour, 200 millions de couples font l'amour. 100 millions de milliards de spermatozoïdes sont émis. 50 millions d'ovules sont produits. 800 000 sont fécondés. Résultat, 400 000 nouveau-nés arrivent toutes les 24 heures. La population mondiale va donc s'enrichir de 80 millions d'individus par an au rythme de 3 bébés par seconde. Voilà pour les chiffres. Alors, soit nous allons continuer à ce rythme, ce qui nous entraînerait au pire scénario prédit depuis 30 ans, soit les humains que nous sommes trouveront d'eux-mêmes la solution pour se faire tous une place sur la planète Terre. La planète qui, comme chacun sait, n'est pas extensible. En attendant, le 16 juin prochain, la Terre devrait franchir le cap des 6 milliards d'êtres humains. Pourquoi le 16 juin ? Réponse de Madame Fama Anaïba, de nationalité mauritanienne, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali.
C'est une date symbolique, oui. Cela coïncide surtout avec la revue à mi-parcours du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994. Vous voyez, et au cours de laquelle des engagements fermes ont été pris par plus de 170 pays qui se sont réunis et qui se sont engagés à tout faire pour faire en sorte que les services de santé en matière de reproduction puissent être à la disposition de tous les hommes et de toutes les femmes à l'horizon 2015.
En matière de démographie, la thèse alarmiste de la bombe P, P pour population, a fait du bruit dans les années 70. Parmi ses avocats, l'agronome français, auteur de « L'Afrique noire est mal partie », René Dumont.
Évidemment, il y a une menace démographique sur l'Afrique que j'ai signalée dès mon premier passage en Afrique noire en 1949-50, l'hiver 49-50. Très peu d'Africains ont compris la gravité du problème et actuellement, le drame de l'Afrique, c'est ce drame démographique.
Aujourd'hui, les démographes sont plus sereins. Les pendules ont été remises à l'heure, comme l'explique Jean-Claude Chenet de l'Institut national d'études démographiques à Paris.
L'idée de surpopulation, c'est une généralisation un peu trop rapide que je comprends bien pour le passé. Je comprends qu'on ait eu des craintes dans les années 50 et 60. Mais depuis, je trouve qu'on n'a plus le droit de tenir le même langage parce qu'il s'est passé deux choses. La première, c'est que la baisse de la fécondité à l'échelle du monde entier a été très forte depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Et c'est un phénomène planétaire, hein. Ce n'est pas un phénomène européen ou occidental ou même japonais, c'est un phénomène planétaire. Finalement, les pays où la baisse séculaire de la fécondité n'a pas démarré ou est encore très faible sont très très minoritaires. C'est une toute petite fraction, ils représentent moins d'un dixième de l'humanité. Globalement, si vous prenez maintenant l'indice de fécondité du monde en développement, il est tombé autour de 3, alors qu'il était autour de 6 en 1965. Donc il a chuté de moitié. Ça, c'est une révolution qu'il faut prendre en compte. On ne peut plus dire que la population va continuer à croître de façon exponentielle, comme on le disait au moment où le Club de Rome publiait ses courbes qui faisaient peur.
Alors, pourquoi ces erreurs dans les pronostics? Les motifs sont divers. Pour Gilles Pison, du Centre national de recherche scientifique, les démographes avaient quelques arrière-pensées.
Il y en avait d'abord qui étaient délibérément alarmistes, c'est la méthode Coué. On dit « attention, la catastrophe va arriver, c'est pour éviter qu'elle se produise ». C'était donc une méthode un peu pour empêcher qu'elle arrive, il y avait un peu de ça. Et puis les experts se sont trompés par excès de conservatisme. Ils ont sous-estimé les capacités d'adaptation des populations humaines en matière de taille de famille, de contraception. Ils ont longtemps pensé que les Asiatiques, les Latino-Américains ou les Africains continueraient à avoir des familles nombreuses et n'adopteraient la famille réduite de parents, deux enfants, qu'avec difficulté. Et ils se basaient là-dessus sur des soi-disant études ethnographiques qui montraient que la famille nombreuse était une valeur sacrée dans ces régions et dans ces populations. Et donc, ils n'ont pas prévu l'adaptation très rapide de la taille des familles en Chine, en Inde, mais même en Amérique latine. Et encore maintenant, les experts donc, se trompent. Ils ne prévoient bien une transition progressive vers la famille de taille réduite, mais les faits montrent que ça va plus vite que ce qu'on prévoit. Et donc, les experts régulièrement revoient leurs chiffres de population à la baisse.
En matière de calcul, encore faut-il savoir si les démographes peuvent faire confiance aux États qui se chargent de faire les recensements. Réponse de Jean-Claude Chenet.
Il y a deux cas qui posent problème, on n'aime pas trop en parler, mais c'est le cas du Nigeria. Le Nigeria avait fait un recensement dans les années 60 qui avait été grossièrement exagéré pour des raisons politiques et financières. Le chiffre de population avait été massivement majoré avec l'accord du Parlement. Parce que, bon, il y avait des crédits à la clé et des postes. Hein. Leur dernier recensement a été fait avec plus de sérieux, mais je ne suis pas sûr qu'il soit parfaitement exact. Il y a un deuxième pays pour lequel la marge est maximale, c'est le cas chinois. La Chine est un pays où il y a un contrôle des ventres. Il est interdit d'avoir des enfants au-delà d'une certaine taille. Dans les villes, au-delà du premier, et dans les campagnes, en principe, au-delà du deuxième. Alors, conséquence, il y a plein d'enfants qui naissent et qui échappent à l'enregistrement. Alors, officiellement, le Comité national de planification des naissances disait qu'il y avait un peu plus de 16 millions de naissances en 1989. Le recensement a montré qu'il y en avait en fait 24 ou 25 millions. Et les expertises qui ont été faites après montrent que c'est encore plus. Donc on peut imaginer qu'il y a une marge d'erreur dans le cas de la Chine qui est assez considérable. Et il n'est pas impossible que la marge puisse monter jusqu'à 100 millions. Il n'y a aucun pays pour lequel le recensement est parfait. Hein. Disons-le tout de suite, il y a une incertitude, même pour les pays qui ont une statistique excellente, je pense aux pays nordiques, aux pays d'Europe, qui ont l'habitude de la paperasserie, de la bureaucratie, de l'état civil. Dans ces pays-là, l'incertitude est de 1 à 2%. Bon, il faut le savoir. Qu'est-ce que c'est qu'un 2%? C'est rien du tout. Vous avez des pays pour lesquels l'incertitude est assez importante. Ce sont les pays qui sont en général mal gérés ou qui n'ont pas du tout de gouvernement. Alors là, il faut bien avouer qu'il y a une marge assez large.
Pour comprendre la nouvelle donne et ce qu'on appelle la transition démographique, les méthodes de contraception réservent des surprises. Par exemple, les Chinois et les Indiens n'ont pratiquement pas recours à la pilule. D'autres exemples, Gilles Pison.
La stérilisation, que ce soit de l'homme ou de la femme, le plus souvent de la femme, est la méthode pratiquée par plus de la moitié des couples en Amérique du Nord. C'est-à-dire que plus de la moitié des couples d'âge fertile qui ne souhaitent pas avoir d'enfants sont stérilisés, soit la femme, soit l'homme. Les Américains et les Canadiens, c'est à 60% que les couples sont stérilisés. En Angleterre, c'est 30%. Alors que dans les pays latins, dont la France fait partie, c'est une toute petite minorité. La méthode est même interdite comme méthode de contraception. Elle est tolérée pour des raisons médicales.
En matière de contraception, il reste beaucoup d'efforts à faire, comme l'explique Madame Aneba de l'ONU.
Lorsque vous mettez à la disposition des gens les services qu'il faut en matière de santé, y compris donc la santé de la reproduction qui leur permet d'être en bonne santé, de vivre leur sexualité en toute sérénité, en bonne santé, d'avoir des enfants quand ils le veulent et quand ils le souhaitent, donc pouvoir accéder à la planification familiale et à la contraception, on a remarqué que les gens décident d'avoir moins d'enfants, surtout quand vous leur donnez encore l'éducation et que cela, notamment pour les femmes, leur offre beaucoup plus de perspectives de choix, d'opportunités et de perspectives d'une participation plus active à la vie économique, à la vie sociale, à la vie publique et politique. Automatiquement, les gens décident d'avoir moins d'enfants. On note qu'actuellement, les jeunes femmes ont moitié moins d'enfants que leur mère, par exemple. D'après les calculs qui ont été effectués, il suffit de réduire, par exemple, la taille de la famille d'un enfant pour que cela se traduise, par exemple, à l'horizon 2150, par une diminution de l'ordre de 23 milliards.
Si vous regardez les prévisions de population à l'échelle du monde depuis 1960 par l'organisme qui s'en occupe et que tout le monde considère comme sérieux, c'est l'ONU, hein, la division de la population des Nations Unies. Regardez les prévisions qui ont été faites par la division de la population depuis les années 60 et comparez avec la réalité maintenant, en 1998, vous verrez que le degré d'erreur est très faible.
Ce fonds des Nations Unies dispose actuellement d'un budget de 300 millions de dollars, bagatelle. Et demain, pour faire en sorte que les enfants qui naissent soient les enfants désirés, l'argent sera-t-il disponible ? Fama Aneba.
À la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994, on avait procédé à une évaluation du coût des dépenses et la conclusion était qu'il était nécessaire de mobiliser 17 milliards de dollars par an jusqu'à l'horizon 2000 et à partir de l'horizon 2000 jusqu'à 2015-2020, 21 milliards de dollars. Alors là-dessus, les deux tiers de ces fonds devaient provenir des pays en développement eux-mêmes et un tiers seulement devait parvenir des pays développés. Figurez-vous qu'à ce jour, on a arrivé à mobiliser à peine 10 milliards de dollars, ce qui est bien sûr loin des 17 milliards de dollars, 2000, dans deux ans. Et là-dessus, les pays en développement, contrairement à ce qu'on pense, ont fourni les 4 cinquièmes de ces 10 milliards de dollars. Alors que les pays développés, dont on attendait qu'ils fournissent que 5,7 milliards de dollars, actuellement n'ont pas fourni plus de 1,3 milliard. Et si on met la Banque mondiale, c'est 2 milliards de dollars actuellement. Et en fait, ces 17 milliards de dollars ne correspondent qu'à 9 jours de dépenses d'armement.
La question financière est cruciale, car il serait faux de croire que tout est réglé. Non. Les réalités démographiques sont très complexes. Jean-Claude Chenet.
Il y a une confusion entre deux notions, entre la vitesse de croissance de la population, qui est trop rapide dans certains pays, et la densité. Il y a des endroits où la densité est extrême, je pense au nord de l'Inde, Bangladesh, la vallée des fleuves en Chine, la vallée du Nil. Bon, ça, c'est vrai, il y a un vrai problème. Mais le problème qui angoisse le plus les individus, c'est la vitesse de croissance, et notamment en Afrique. C'est là que la vitesse de croissance est la plus forte. Mais l'Afrique n'est pas surpeuplée globalement, à part dans la région des Grands Lacs. Donc il y a une confusion. Et s'il y a des endroits où il y a surpeuplement, c'est très localisé. Ce n'est pas un problème planétaire, c'est très localisé sur la carte. Vous avez des contrastes de densité, vous avez des immensités vierges qu'on voit quand on prend l'avion. On peut faire quelquefois des milliers de kilomètres sans voir d'établissement humain. C'est vrai en Sibérie, c'est vrai au Canada, c'est vrai en Australie, c'est vrai dans plein d'endroits. Chaque région a ses problèmes. L'Afrique a encore devant elle une poussée démographique qui va être difficile à gérer. De l'autre côté de la Méditerranée, vous avez exactement le cas de figure inverse. Vous avez des populations dont la pyramide des âges prend une forme de champignon. Vous avez de plus en plus de gens qui sont en train de dépasser la cinquantaine. Et il faudra s'adapter à ça, leur passage à la retraite, leur fin de carrière. Bon, et on aura une insuffisance démographique.
La France, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, a connu cette insuffisance démographique, qui se comble désormais grâce au mouvement migratoire. Explication d'Anne Saint-Dreux, directrice de la maison de publicité à Paris, qui a répertorié les publicités natalistes depuis un siècle, dont celle de l'après-guerre.
Au départ, il y avait un besoin, il y avait un manque dans la France des années 50. Il y avait un réel besoin de sang nouveau, de rénovation de la population et puis d'augmentation de la croissance. Tous les pays étaient en croissance au niveau démographique et la France stagnait comme un vieux peuple qui n'était pas du tout à la mesure de la réputation du French lover. Mais ceci étant dit, les immigrations successives des années 50, 60, 70 nous ont apporté une jeunesse, des cultures, des rites qui incitent à la famille nombreuse. Et cette mixité, eh bien, je trouve que c'est notre nouvelle population, notre nouvelle génération. Il faut penser en termes de planète et non pas de peuple cantonné dans les limites d'un hexagone. Et puis il faut penser que l'enfant est quand même une valeur sacrée dans la mesure où c'est une responsabilité à vie.
La survie de l'espèce humaine ne dépend pas tant du nombre, mais de la façon dont les hommes vivront. D'où le concept de capacité de charge, évoqué ici et là par les écologistes. Une idée que développe à sa manière le généticien Albert Jacquard.
Ce n'est pas une crainte vaine que de dire « nous avons quadruplé l'effectif des hommes en 100 ans ». Il faut évidemment que ça s'arrête. Et par conséquent, il y a un problème, c'est de savoir où va s'arrêter, comment arrêter l'expansion, l'explosion de l'effectif des hommes. Il est très probable que ça s'arrêtera aux environs de 9 milliards, quelque part, avant la fin du siècle prochain. Bon, d'accord, mais le vrai problème, c'est comment va-t-on vivre à 9 milliards sur cette Terre ? Est-ce que cette Terre peut les supporter s'ils se mettent tous à se comporter comme des Occidentaux moyens ? Et là, la réponse est non. Vivre comme je le fais ne peut pas être multiplié par 9 milliards, même pas par 6 milliards. La réponse est quelque part entre 500 millions et 1 milliard.
À partir de ce constat, l'explosion démographique n'est-elle pas un faux problème ? En tout cas, il semble de plus en plus que cela cache d'autres enjeux. Parmi eux, le défi social, l'emploi. Fama Aneba.
Lorsque vous regardez ces 6 milliards d'individus que nous allons atteindre, et c'est le thème du rapport cette année, vous vous rendrez compte que la génération des personnes jeunes, âgées de 15 à 25 ans, est la génération la plus importante qu'on ait jamais connue. Elle se situe autour de 1 milliard. C'est des gens qui vont entrer sur le marché du travail. Et dans la mesure où aussi ils constituent une force potentielle de travail, qu'est-ce qu'on va faire pour créer des emplois pour permettre de tirer le maximum de bénéfices de cette force-là et pouvoir accumuler des richesses pour bâtir un avenir meilleur et donc un développement durable et qui peut permettre d'améliorer le bien-être de toutes les couches de la population, des plus petits aux plus âgés.
Le problème, c'est de donner aux personnes qui n'ont pas de travail de l'argent pour avoir accès aux subsistances qu'on peut produire. C'est ça, la question devient plus subtile, parce que techniquement, maintenant, on peut nourrir 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, disent certains spécialistes. Mais si ces gens n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas acheter les subsistances. Et c'est ça le vrai problème. L'angoisse démographique, maintenant, elle se déplace. Elle est liée au progrès technique. Est-ce que ces personnes qui naissent maintenant, les individus supplémentaires, auront un pouvoir d'achat à travers un travail? Est-ce qu'elles auront du boulot?
Si notre vision de la croissance démographique doit être revue et corrigée, c'est peut-être tout simplement parce que nous avons, une fois de plus, sous-estimé certains facteurs humains, la conscience humaine. Jean-Claude Chenet.
Les femmes du Bangladesh, qui sont probablement parmi les plus pauvres du monde, qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas mis les pieds à l'école, ont l'une des fécondités les plus basses du tiers-monde. Elles sont musulmanes en plus. Donc elles ont compris que si elles faisaient beaucoup d'enfants, elles mettaient en péril la vie de la famille des riches existants et peut-être la famille des enfants supplémentaires. Donc il fallait s'arrêter au-delà d'une certaine taille. Voyez ? L'individu est l'animal le plus intelligent, donc il ne faut pas faire des pronostics très sombres. Quand l'individu comprend qu'il met en cause sa propre survie et celle des êtres qui lui sont les plus chers, s'il fait trop d'enfants, bah, il arrête d'en faire.
En bref sur Fréquence Terre, Japon. Les Japonais ont l'espérance de vie la plus longue dans le monde. Le nombre des centenaires va bientôt dépasser les 10 000. Japon toujours. La personne recensée la plus âgée est japonaise. Elle s'appelle Taze Matsunaga, vit à Tokyo et serait née il y a 114 ans. Israël. Avec une population qui s'est multipliée par plus de 7 depuis sa création il y a 50 ans, Israël connaît l'une des densités démographiques les plus élevées du monde, 265 habitants au kilomètre carré. Afrique subsaharienne, la population devrait atteindre 1,5 milliard en 2050. Entre-temps, le nombre d'enfants par femme est en baisse. Il est passé de 7,4 à 5,7 en Côte d'Ivoire, si l'on en croit le dernier article publié par l'Institut national d'études démographiques à Paris. Le regard de Fréquence Terre. Pour monter une exposition au Musée de l'Homme à Paris, Gilles Pison s'est acharné pendant 2 ans. Les écoliers accourent. Une version itinérante est en préparation, et ça tombe bien car dans toutes les régions de France, comme à l'étranger, on la réclame. Une aubaine pour ce chercheur français qui préfère évoquer ses expériences au Sénégal. Entre-temps, l'exposition s'est mise à l'heure d'Internet et de façon interactive. Gilles Pison.
Au départ, je n'étais pas démographe, j'ai fait des études de biologie humaine et de génétique des populations. J'ai dû faire un stage de recherche à l'Institut national d'études démographiques à Paris, et c'est de là que je me suis intéressé aux questions de population. J'ai eu envie d'en parler autour de moi. Alors, un des moyens qu'on a trouvé, c'est de fournir des informations chiffrées et personnalisées. Dans l'exposition et dans les écrans qui la meublent, eh bien, on vous demande votre âge et on vous donne en retour le nombre d'hommes sur Terre au moment de votre naissance. On vous indique combien d'hommes sont nés la même année que vous. Pour vous faire toucher du doigt la mortalité depuis que vous êtes né, on vous dit combien parmi les personnes qui sont nées la même année que vous sur la Terre sont encore vivantes comme vous et combien sont mortes. C'est un des paysans du village qui a été choisi pour dispenser des soins élémentaires. Avec lui, je tiens depuis des années une espèce de statistique des naissances et des décès. Mais ça ne l'intéressait pas au début particulièrement. Et un jour, lui-même avait dans un cahier mis d'un côté tous les accouchements pour lesquels il était intervenu au cours de l'année. Et puis, en regard, les accouchements du village où les parents n'avaient pas demandé son aide. Et il avait constaté la différence dans la mortalité des enfants entre les deux groupes. Et surtout, il s'était aperçu que c'était très efficace pour montrer, démontrer aux villageois son rôle. Voilà, un démographe qui s'ignorait et qui a vu l'intérêt d'un recueil régulier d'informations pour convaincre que c'était important d'appeler l'hygiéniste au moment d'un accouchement pour éviter la mort possible d'un enfant.
C'était Fréquence Terre, une émission du service magazine de Radio France Internationale. Réalisation Marc Delouvrier, mixage Cyril Etienne, reportage et présentation Ben Kramer.
Voilà, reportage réalisé en octobre 1998. Depuis cette date, la population a continué de croître, mais à un rythme moindre, croissance positive donc, mais plus lente. Les chiffres des statistiques disent aujourd'hui que nous passerons en 2037 la barre des 9 milliards d'individus et la croissance continuera de ralentir jusqu'à régresser vers la fin du siècle. On a entendu ce commentaire d'un intervenant du reportage. Si la population de la planète entière avait le niveau de vie d'un occidental moyen, on ne pourrait pas être plus d'un milliard, 8 fois moins qu'aujourd'hui. Le problème n'est donc pas tant le nombre, mais le mode de vie plus ou moins frugal que nous adoptons. La frugalité n'est pas à l'ordre du jour dans nos sociétés de consommation et nous dépassons chaque année en ressources consommées ce que la Terre est en mesure de fournir. Alors, surpopulation peut-être, mais surconsommation sûrement, pour les plus riches en tout cas. Alors, comme nous avons réussi à ralentir notre reproduction, parviendrons-nous à limiter notre besoin en ressources ? Rendez-vous dans 30 ans. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui que vous venez d'écouter en direct sur 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire ou en podcast sur le site alternantefm.fr. Rions un petit peu avec notre séquence musicale. On peut se demander de quand date cette folie d'acquérir tout ce que le monde moderne et le génie humain peuvent inventer. Peut-être bien dans les années 50 quand Boris Vian écrivait cette chanson sur le bonheur dans la consommation de biens. Ça s'appelle « La complainte du progrès » et c'est la version de Bernard Lavillier que je vous propose. À la semaine prochaine.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scotaire, un atomiseur et du dunlopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des belles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à touffe, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et l'on se garde tout. Hey Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon sirop godasse, mon repas sur limace, mon tabouret à glace et mon chasseur filou, la tourniquette pour faire la vinaigrette, le ratatine ordu et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore belle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe sabat, au canon à patate, à l'évente automate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède parce qu'il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça